tout de suite la deuxième et dernière partie de La Grande Table avec notre invité Jean-Pierre Le Goff. À noter d'ailleurs qu'il sera aussi l'invité d'Alain Finkielkraut ce samedi dans Réplique. C'est parti, La Grande Table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, mai 68, de l'héritage impossible à l'héritage revendiqué. Une émission en partenariat avec Emmanuel Poncet, le nouveau magazine littéraire qui, dans son numéro de mars, interroge cette passion française. Explorer l'esprit de mai n'a rien d'une visite au musée Grévin, écrivent les concepteurs de ce nouveau numéro. C'est renouer avec notre présent. Bonjour Emmanuel Poncet.
Bonjour.
On va voir en quoi, comment, 50 ans après mai 68, peut-on dépasser l'événement, se le réapproprier. Historien, sociologue, politologue, philosophe, il plaide pour réinscrire l'événement dans une temporalité plus longue. Lui a choisi de repenser la décennie qui a précédé ce moment. Un point de vue développé à la première personne du singulier par le sociologue Jean-Pierre Le Goff, notre invité. Auteur en 98 d'un premier mai 68, L'héritage impossible, réédité en 2006, agrémenté d'une nouvelle postface, Mai 68 n'appartient à personne. Il publie aujourd'hui La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 50 à mai 68 chez Stock. Souvenirs, archives personnelles et coupures de presse de l'époque à l'appui, avec une subjectivité revendiquée, une appréciation personnelle des situations, des institutions et des personnages qui ont contribué à écrire cette page de l'histoire, un livre d'égo-histoire pour faire comprendre de l'intérieur le climat d'une époque. C'est en tout cas comme ça que vous le présentez. Bonjour à vous Jean-Pierre Le Goff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je lance la discussion, si vous le voulez bien, Emmanuel Poncet, ce va et vient, Jean-Pierre Le Goff, entre le passé et le présent. Vous l'avez opéré en suivant le fil d'une mémoire volontairement subjective et sélective.
Oui, sélective, bien sûr. J'ai pas tout dit, si vous voulez. Je ne revendique absolument pas la transparence comme c'est actuellement. Non, l'idée était assez simple. Au début, je voulais pas écrire ce livre, si vous voulez, parce que j'aime pas parler de moi. C'est lié à une éducation dans l'ancien monde. On m'a un peu poussé à le faire pour une raison. J'ai fini par céder pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai vu arriver un contre-courant, si vous voulez, un peu revanchard sur mes 68. Quand j'ai écrit mon premier livre, c'était, j'allais dire, une belle histoire racontée aux enfants, c'est-à-dire une histoire de l'histoire racontée par les vainqueurs. C'est, en gros, pour résumer un peu à l'époque, c'était en 98, régnait encore cette idée, ben finalement, les 68ards, c'était des révolutionnaires, ils ont compris vite les choses et se sont transformés rapidement des modernisateurs qui d'ailleurs sont devenus très fiers et qu'on a vu beaucoup dans les médias, quoi. Donc ils ont modernisé la France, le projet au départ n'était pas le bon, mais enfin finalement, alors il y a quelque chose de vrai dedans, mais ça mettait totalement de côté les impasses, les gens qui sont restés sur la touche, la part de nihilisme, je dis pas du tout la totalité, mais il y avait une part de nihilisme dans mai 68, et c'est ce que j'avais appelé une histoire belle racontée aux enfants. Au même moment, sous le mitterrandisme triomphant, c'est-à-dire on va voir arriver la reconversion d'un certain nombre de gens à l'intérieur même du parti socialiste. Alors ça, c'était en 98. Aujourd'hui, je crois qu'il peut y avoir un mouvement de balancier inverse, où depuis un moment, je pense notamment à Nicolas Sarkozy, il faut liquider 68, je trouve totalement absurde, on ne liquide pas un événement historique, enfin bon. Et il y a toute une relecture, je dirais, de droite, conservatrice, de jeunes conservateurs que je connais personnellement, que j'estime pour leur critique du nouvel air du temps, parce que j'estime qu'au passage, ils critiquent pas mal de choses qui sont tout à fait vraies, mais ils opèrent une lecture rétrospective qui ne comprend plus l'événement et qui impute à l'événement des effets qui viennent après 68. Donc, mon propos était de revenir sur le moment initial et les conditions qui l'ont rendu possible par rapport aux différentes strates d'interprétation qui ont existé après. Et si j'arrivais, un temps soit peu, par le récit, parce que je pense que le récit, c'est la seule façon, à mon avis, d'essayer de faire comprendre de l'intérieur un climat d'époque. C'est pour ça que j'ai changé, si vous voulez, par rapport à l'analyse sociologique classique en position de surplomb. Et si dans le livre, il y a quelques, si les jeunes générations arrivent à entreapercevoir ce qu'était le monde ancien, comment ce monde ancien a basculé à un moment donné, eh bien j'en serais particulièrement content.
un événement collectif qui n'appartient à personne. On aurait donc tendance à penser que c'est un événement qui appartient à tous aujourd'hui. Dans un sondage que vous avez réalisé au nouveau magazine littéraire, pour ce nouveau numéro, Emmanuel Poncet, on fait entrer un moderne dans l'arène, si vous permettez, Jean-Pierre Le Goff. Il semblerait qu'une majorité des Français interrogés se réapproprient l'événement d'une manière et son héritage d'une manière positive.
Eh bien oui, c'est une immense surprise dans ce sondage. Bon, nous ne sommes pas coutumiers du fait, et le sondage pour nous appartient plutôt au News Magazine.
Mais que là, ça ne devienne pas une habitude d'ailleurs.
Là, il se trouve qu'au nouveau magazine littéraire, on voulait simplement vérifier ce que vous décriviez tout à l'heure, Jean-Pierre Le Goff, c'est-à-dire qu'on sort quand même quasiment d'une décennie de, passez-moi l'expression, de 68 bashing, hein, où en effet, on a entendu les pires horreurs sur ce mouvement et ses conséquences. 68 qui a sapé l'autorité, qui a détruit l'école républicaine, qui a fait éclater la famille. Et la grande surprise de ce sondage, c'est que, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais 79% des Français considèrent que mai 68 a produit des conséquences positives.
Donc, c'est-à-dire lesquelles ?
Ça nous a complètement bluffés. Donc, les conséquences, elles sont principalement sur la modernisation des structures. Donc, certains disent, ils sont 83%, si ma mémoire est bonne, à dire que ça a ouvert une nouvelle période culturelle, que ça a libéré la parole des femmes. Je veux dire, le mouvement MeToo,
c'est quand même la
preuve que cette libération a été extrêmement forte. Et pour prendre ce thème de l'école qui est extrêmement sensible, ouais. On parle de Jean-Michel Blanquer en ce moment, qui est considéré comme le vice-président de la République,
par
certains médias, 61% des personnes qu'on a interrogées, c'était quand même 2000 personnes, hein, de toute tranche d'âge, tout milieu, toute catégorie socio-professionnelle, 61% considèrent que mai 68 n'a pas détruit l'école républicaine. Donc c'est une pierre, un pavé dans le jardin de ceux qui veulent ou voulaient liquider l'héritage.
Alors entre liquider mai 68 et en faire un totem comme la gauche a pu le faire dans les années 80 et par la suite en récupérant cet héritage, Jean-Pierre Le Goff, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Vous vous dites quoi aujourd'hui ? Comment appréhender cet événement ? On a le sentiment qu'avec ce livre, il y a surtout pour vous le souhait de le porter d'une manière nouvelle à la connaissance des nouvelles générations. Est-ce que ça, c'est pas justement une lubie d'anciens 68ards que de vouloir traduire cet événement en langage jeune ? Oui. Est-ce que vous pensez que ça les intéresse encore et qu'au fond, on n'en aura jamais fini avec mai 68 ?
Oui, on n'aura jamais fini, mais on n'en a jamais fini avec un événement historique qui nécessite une interprétation multiple. Moi, je ne prétends pas donner un regard global sur 68. Je pense que la difficulté, pour moi, est d'appréhender le moment spécifique et les conditions qui ont rendu possible l'événement. Pourquoi ? Parce qu'après 68 et dès 68, se met en place des strates d'interprétation. Et ces strates d'interprétation vont progressivement empêcher de comprendre la nature exacte de l'événement. Et les jeunes générations, par exemple, ils vous parlent du féminisme. Excusez-moi, en 68, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les principales animatrices qui vont créer la MLF. Ils disent que c'était totalement minoritaire. Le féminisme, il n'y en avait pas. C'était même très machiste dans les groupuscules. C'était plutôt le militant néo-léniniste, guerrier. Il n'y a pas de femmes leaders. Deuxièmement, l'écologie. Les jeunes peuvent dire que c'est un acquis, mais il y a un petit malentendu. 74, la montée de l'écologie politique avec Dumont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Harakiri avant, il n'y a pas des choses qui se font. Mais ce n'est pas l'écologie. Par exemple, au quartier latin, on abat des arbres pour construire des barricades. J'ai le nombre d'arbres abattus dans les soirées. C'est pas très écologique. Donc ce que je veux dire sur les nouvelles générations, il faut faire attention, c'est tout à fait typique ça. Parce qu'on écrase, en fait, l'événement est écrasé par ce qui a suivi, voyez ? Et donc, on relie l'événement à partir du point d'arrivée. J'y rajouterai SOS racisme. On va dire c'est la même chose. Non, c'est une autre étape. Alors bien sûr, il y a des éléments de continuité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de discontinuité. Deuxièmement, j'assume qu'il y a un héritage impossible, qui à mon avis conjugué avec le chômage, je peux détailler le contenu de cet héritage impossible. Il y a eu une revendication d'autonomie érigée en absolu, par exemple, qui pouvait se comprendre dans le moment par rapport à des interdits, des hiérarchies, et qui très vite s'est affirmé, si vous voulez, de façon absolue, et qui a participé de l'érosion, je dis bien de l'érosion, d'un certain nombre d'institutions. Si bien qu'à un moment donné, tout ce qui était un peu synonyme de hiérarchie pouvait être immédiatement soupçonné de volonté de domination. ou de manipulation. En contrepoint, la parole était donnée à ceux d'en bas comme une espèce de vérité venant spontanément dans la bouche des enfants, j'allais dire, mais de tout ce qui est dominé. Vous voyez, troisièmement, il y a eu l'histoire, un règlement de compte historique avec l'héritage, qui a plus tard, je dis pas en 68, plus tard, abouti à une histoire pénitentielle, si vous voulez, où notre histoire, elle est ambivalente, il y a du tragique. Et tout ça fait partie, à mon avis, de l'héritage impossible. Mais 68 n'est pas responsable de tous nos maux par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Ça n'a pas inventé le chômage de masse. On oublie une rupture aussi importante qu'est 73-74, la fin des Trente Glorieuses, le basculement avec l'écologie dans un autre type. C'est plus l'utopie joyeuse, dépensière, un peu irresponsable mais joyeuse. C'est l'utopie ou la mort. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand en 1981... arrive, on récupère, parce qu'à mon avis la gauche a récupéré une partie de l'héritage impossible au moment de la victoire de Mitterrand, qui est une victoire politique, sur fond d'une société qui entre 68 et 81 a déjà considérablement changé. Et la doctrine socialiste est déjà, à mon sens, et du moins mon interprétation, est en morceaux. Et il va y avoir une intégration de l'héritage impossible à l'intérieur de la gauche, et pour moi, l'intégration de cet héritage impossible à l'intérieur de la gauche est un des facteurs, je dis pas le seul, qui a contribué à couper la gauche avec les couches populaires.
Emmanuel Poncet, alors, juste avant de vous donner de la parole, peut-être je cite juste Jean-Pierre Le Goff sur ce passage-là. Tous les problèmes ne peuvent être amenés et imputés à mai 68 et aux 68ards. On peut être critique sur les idées et les actions menées à l'époque, mais les étudiants contestataires et les gauchistes n'ont pas inventé la crise du christianisme, le discrédit du gaullisme dans de larges parties de l'opinion, la crise de l'université, le mécontentement social, les luttes ouvrières et paysannes et la grève générale qui paralysa à un moment le pays. 50 ans plus tard, on ne saurait leur imputer la fin des Trente Glorieuses, le chômage de masse, les déserts industriels, les problèmes des banlieues, voire l'islamisme radical. Emmanuel Poncet.
Oui, alors il y a un chiffre dans le sondage que nous publions au Nouveau Magazine Littéraire qui accrédite votre vision. Le reste de notre enquête démontre plutôt l'idée qu'il y a un héritage est possible, au contraire. Oui. Mais ce qui accrédite votre idée, cher Jean-Pierre Le Goff, c'est le fait que pour 60% des personnes que nous avons interrogées, il y a une dégradation du rapport aux politiques. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de désaffiliation qu'on a tous constaté au travers des taux d'abstention. Et c'est vrai que, autant dans cette étude, il y a énormément de chiffres qui défendent l'héritage. Si les sondés doivent retenir une conséquence négative, c'est bien celle de la dissolution, de la dégradation du lien politique. Donc ça donne de l'eau à votre moulin. Mais il y a un autre élément qui contredit ce que vous disiez, c'est qu'un des slogans préférés qui sort systématiquement parmi toutes les personnes interrogées, quelle que soit la tranche d'âge, quelle que soit la famille politique, c'est-à-dire qu'on soit électeur de François Fillon au premier tour de la présidentielle ou de Marine Le Pen, le slogan « Il est interdit d'interdire » sort en tête de la vingtaine de slogans que nous avons proposés, ce qui accrédite une certaine, cet esprit peut-être rebelle, protestataire, peut-être un peu anard, que sais-je, mais qui, moi, me semble plutôt augurer d'une sorte de à la fois d'esprit rebelle et de volonté, pourquoi pas utopique, c'est-à-dire attaquons-nous au totem,
Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça fait partie de l'héritage impossible, ce slogan, parce que je ne connais aucune société humaine qui puisse vivre sans interdit. Ça ne veut pas dire du tout qu'on ne peut pas les critiquer, ou même les transgresser. Mais les transgresser, la transgression, je rappellerai une idée de base, elle suppose l'interdit. Elle a un prix à payer. Je vais prendre un auteur comme Georges Bataille sur la transgression qui se payait de l'angoisse. Or aujourd'hui, je dirais que la mentalité, ça c'est le nouveau conformisme, à mon avis ce n'est pas mai 68, mais donnez-nous les moyens de la transgression avec l'assurance avec. Ça c'est une mentalité que je trouve assez adolescente, si vous voulez. Parce que ce que vous dites, pour moi, il y a eu ce que j'ai appelé à un moment donné, non pas la totalité du mouvement de mai, mais il y a une dimension de révolution adolescente qui est liée à ce moment-là, à la montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'un sociologue polonais appelait le peuple adolescent, qui est liée à l'allongement d'ailleurs des études, c'est-à-dire cette période de la vie qui historiquement, antérieurement, était beaucoup plus courte, puisque les jeunes travaillaient, ou c'était une petite minorité, eh bien elle va s'allonger. Et en même temps, on va avoir une culture jeune qui démarre avant 68, le rock étant le vecteur principal de cette culture, avec une dimension de révolte. Et ce qui était, à un moment, si vous voulez, minoritaire, va, cette culture va progressivement monter en puissance. Et donc, je dirais même que dans l'héritage impossible, la posture adolescente, par exemple, où tout est possible, hein, parce que ça, où l'imaginaire prend le pouvoir, ou la fuite dans l'imaginaire avec l'utopie. Alors l'utopie, si vous voulez, eh ben pourquoi pas, parce que je pense qu'en politique démocratique, l'utopie, je m'en méfie. Je suis pour l'utopie comme il faut revenir à ce qu'elle était son premier statut, qui était de une littérature qui permet d'envisager un futur. D'accord, mais si vous le mettez en politique, par exemple, ça dépend comment on conçoit la politique. Par exemple, j'ai lu récemment un livre que vous connaissez sur la conversation devient l'essence même du politique. Tout n'est pas politique. Et en 68, il y a une illusion où tout est politique. Et quand j'entends encore aujourd'hui que c'est ça l'essence du politique qui s'attacherait à tout, ce n'est pas parce que nous discutons de tout. Pour moi, mai 68 est infra-politique et culturel avant d'être politique. Ça veut dire qu'il y a une dimension de catharsis avec une prise de parole multiforme, un décloisonnement social dans un moment historique de basculement où ça fait beaucoup de bien. De là à dire que se forme à partir de là une nouvelle façon de la politique qui va subvertir tout, etc., une utopie. L'utopie, c'est bien, mais vous pouvez pas en démocratie en faire un projet politique. Voilà.
Sauf que cette énergie adolescente, cette énergie politique peut se transformer ensuite.
Est-ce que c'est parce que c'est un événement infra-politique, comme vous dites, Jean-Pierre Le Goff, que les politiques, les responsables politiques d'une décennie à l'autre, d'une présidence à l'autre, ont tant de mal à se saisir de cet événement comme une patate chaude? On évoquait les années 80 avec la gauche, on évoquait Nicolas Sarkozy avec son souhait de liquider cet héritage, d'en finir une bonne fois pour toutes avec mai 68. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on se retrouve avec un président, Emmanuel Macron, qui pense un temps commémorer l'événement, puis qui finalement fait marche arrière. Ce qui interroge quand même la question de l'héritage, c'est-à-dire que faire, même politiquement aujourd'hui, de cet héritage de mai 68. Emmanuel Poncet, qu'est-ce que vous en dites, vous, au nouveau magazine littéraire, quand vous dites qu'on peut explorer l'esprit de mai et renouer avec notre présent à travers ça? Comment mai 68 peut, pour vous, interroger notre présent?
Mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a une quinzaine d'années, j'étais journaliste à Libération.
Ça, c'est le passé déjà.
Oui, c'est juste pour vous dire l'espèce de bascule. Il y a 10 ou 15 ans, j'avais un rapport, pardon de parler à la première personne, mais finalement, c'est là qu'on est peut-être le plus juste. J'avais interviewé Jean-Pierre Le Goff à l'époque parce que j'étais dans un rapport conflictuel à l'héritage de mai 68. 10 ans ou 15 ans après,
alors, je peux peut-être vous citer, et je vous laisse poursuivre. 2001, Emmanuel Poncet dans Libération, pour une critique rationnelle de mai 68. Mai 68 fut un épisode historique court, 2 mois, un mouvement culturel et politique considérable, un déverrouillage de la pensée immensément précieux, mais aussi un séisme aux répliques dangereuses. Effectivement, vous interrogez en partie dans cette tribune, cet article.
Et je citais dans cet article Jean-Pierre Le Goff. Eh bien, 10 ans, 15 ans après, ça fait peur d'ailleurs. J'ai plutôt envie, et les lecteurs, les personnes que nous avons interrogées aussi, nous avons plutôt envie de défendre cet héritage aujourd'hui.
En quoi ?
En compte évidemment de ces répliques, de ces défauts, simplement parce que cette énergie adolescente, cette libération de la parole, évidemment qu'il ne faut pas s'en tenir là, mais qu'elle a évidemment produit de grandes choses. Je reprends l'exemple de MeToo, c'est un de MeToo ou Balance ton porc, avec aussi ces défauts. C'est peut-être une certaine violence dans l'expression. Mais
c'est quoi ? C'est une énergie que vous défendez aujourd'hui ? Alors, vous voulez réhabiliter
ce sont des
valeurs.
De prendre la part, non pas nihiliste du mouvement, mais sa part créative, l'imagination au pouvoir, pourquoi pas. Là aussi, c'est un des slogans qui sort en tête dans le sondage que nous publions aujourd'hui. Donc ce mythe-là, on se rencontre aussi, il y a un article très très émouvant dans ce numéro du Nouveau Magazine Littéraire, écrit par Diane Lizarelli, qui s'appelle « Je n'ai pas fait 68, mais 68 m'a fait ». Une jeune auteur qui a 34 ans et qui raconte très très bien en quoi ces images, cette mythologie a aussi participé de son émancipation, de son désir de politique, de la construction de sa sensibilité. Et donc aujourd'hui, encore une fois, j'ai le sentiment que, un, c'est la fin peut-être d'un droit d'inventaire, et que maintenant on est passé de nouveau à ce droit d'inventer, si vous me passez le jeu de mots, et que c'est peut-être le plus important.
France Culture. la grande table, Olivia Gesbert.
Jean-Pierre Le Goff, politiquement, intellectuellement, poétiquement, écrivent les rédacteurs du Nouveau Magazine Littéraire, il y a dans ce regard tendre posé sur la révolte passée une immense promesse d'avenir. Vous avez souhaité, vous aussi, avec ce récit, essai, La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 50 à mai 68, faire œuvre de transmission pour les générations actuelles. Qu'est-ce que vous souhaitez leur passer à travers ce récit ?
Il y a une vision du monde ancien à partir de 68, c'est un mythe quasiment pour des générations nouvelles au sens de mythe fondateur. L'histoire commence là. Et bon, ça date pas d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit l'histoire commence là, et tout ce qui est avant est préhistoire sombre.
Et on a besoin de mythes, vous êtes d'accord avec cette idée.
Oui, enfin ça dépend en politique, tout le problème, enfin il y a un problème de la sphère du politique qui à mon avis est différente de la sphère de la société, de la sphère de l'esthétique, de la sphère de la littérature. Et parmi l'héritage impossible, c'est l'incompréhension de ça, on met tout dans un paquet, c'est l'existentiel qui se mélange au politique, c'est la subjectivité des bridés, je m'assois par terre, c'est déjà de la démocratie à l'athénienne, si vous voulez. Tout ça est un grand méli-mélo. Alors, je le comprends, le méli-mélo, il y a un moment, on a besoin de ça. Mais je n'en tirerai pas une espèce de refondation du politique à partir de ça.
Non,
pourquoi ? Parce que la politique a son champ propre, a ses finalités propres, elle doit écouter ce qui se passe dans la société, mais croire qu'il y aurait un lien direct entre ce qui se passe dans la société et la subjectivité débridée qui remonterait vers la politique, je n'y crois pas du tout. Je pense même que ça peut être dangereux, si vous voulez. Hein. Et d'autre part, la démocratie dont on parle, c'est toujours c'est un vieux sujet à gauche. La gauche a été toujours balancé entre deux points de légitimité de la démocratie. La démocratie, d'abord représentative, républicaine, ses délégués et l'état de droit. Et puis de l'autre côté, les mouvements qui viennent de la société. Et il y a eu, en 68, mais c'est une vieille chose, on va trouver ça avec les sans-culottes en 89, l'idée qu'il y a une démocratie directe, qui légitimement serait plus authentique, plus forte que la démocratie représentative, est quelque chose qui a existé tout le temps à gauche. Et la gauche s'est très mal débrouillée avec ça, jouant tantôt l'un, jouant tantôt l'autre, sans véritablement arriver à la fois reconnaître l'autonomie de la société, parce que 68, c'est quand même la revendication d'une autonomie individuelle et collective de la société, mais en même temps une remise en cause radicale et une utopie, une fuite dans l'imaginaire. Je parle de fuite dans l'imaginaire, où finalement on peut se passer de la hiérarchie, on peut discuter de tout le temps. La société est devenue transparente à elle-même, il ne faut pas déléguer parce que sinon c'est l'oppression. Tout ce qui n'est pas moi est un agent de domination à mon égard. Et ça, c'est l'héritage impossible.
Alors, c'est dans Jacques l'héritage Rancière qui parlait, jeunes, c'est Jacques Rancière qui parlait de mai 68 comme d'une révolution imaginaire aussi.
Mais je pense que, moi je prendrais un mot de Raymond Aron, la révolution introuvable. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on remet en scène toute une histoire de France, c'est étonnant, qu'on peut trouver en 1848, la Commune de Paris, on peut remonter à la Révolution française, vous dressez des barricades. Alors, on dit c'est la Révolution. En plus, n'oubliez pas le rôle des médias. C'est un élément tout à fait nouveau en mai 68. Vous écoutez, vous êtes en province, vous avez l'impression que Paris est à feu à sang, la Révolution arrive, etc.
Oui, parce qu'un reporter d'Europe 1 est dans la...
Est en direct.
À son agra.
Est en direct. Oui, c'est ça. Donc c'est des éléments nouveaux, mais regardez la réalité par rapport à ça. Quand je parle de catharsis et de remise en scène, il y a vraiment une remise en scène. On joue toute une histoire de France dans un moment où la France est en train de basculer vers un autre monde.
Et vous dites d'ailleurs que 68, Jean-Pierre Le Goff, a changé notre rapport à l'information, que ce sont vraiment les débuts de la spectacularisation et du règne de l'émotion qui vont faire passer cet événement pour une révolution, qu'à ce moment-là, les médias aussi se sont convertis au gauchisme culturel.
Oui. En fin de compte, parce que à l'époque, c'est pas les radios libres, mais c'était Europe 1 et RTL, en dehors de la radio officielle gaulliste, la télévision gaulliste. Mais ça a commencé avant, au moment de la guerre d'Algérie. Mmh. Les reportages en direct de ces radios dans les manifestations de rue. Et pour la première fois, là, on rentre dans une modernité totalement inédite. C'est que vous êtes spectateur, vous avez l'impression d'être acteur sans être acteur. Il y a un rapport à l'événement qui est totalement nouveau.
Vous avez aussi un accès au monde qui est absolument inédit, inespéré, et qui participe aussi de la construction des individus. On parlait des radios libres. Cette libération de la parole de 68 a créé, quelques années.
Oui, mais en même temps, c'est le règne de l'émotion.
Le gauchisme culturel dont vous parliez tout à l'heure a donné le pire peut-être, mais aussi le meilleur. Je veux dire, que ce soit les guignols, que ce soit les nuls, que ce soit une certaine façon façon de, je parle pour ma génération, mais
oui, oui.
Ça a aussi produit une culture de la dérision qui a eu peut-être ses excès, mais qui a donné.
Elle est totalement à bout de souffle.
Alors elle est à bout de souffle aujourd'hui, mais elle se renouvelle avec les générations.
Mai 68, l'héritage impossible. Point d'interrogation, si vous le permettez encore, Jean-Pierre Le Goff, auteur de La France d'hier, récit d'un monde adolescent, en discussion aujourd'hui avec Emmanuel Poncet pour ce nouveau numéro du nouveau magazine littéraire qui est sorti hier en kiosque et qui désigne, sacralise mai 68 superstar et remet l'événement au goût du jour. Elle est historienne, elle a signé récemment Au seuil de grand soir en petit matin 1968, elle s'appelle Ludivine Bantini et de mai 68 elle raconte à travers une exploration dense de toutes les archives de France les occupations, les grèves, le moment. On lui a demandé de revenir sur un slogan, voici celui qu'elle a choisi.
Changer la vie, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un slogan, évidemment. Et c'est beaucoup plus qu'ensuite une formule qui a été récupérée à des fins quelque peu politiciennes. C'était d'abord les mots de Rimbaud, c'était les mots du poète, mais c'était aussi des mots profondément politiques. Et donc, ce qui m'a vraiment frappée et beaucoup enthousiasmée, même exaltée, je dois le dire, au travers de ces archives extrêmement foisonnantes, tourbillonnaires, hein, pour reprendre aussi la formule de Jean-Christophe Bailly, c'est la puissance d'intervenir dans le champ du politique, d'intervenir, de se sentir enfin légitime à prendre la parole, à s'organiser, à imaginer des choses dans l'ordinaire du quotidien, dans les quartiers, dans sa ville, dans son métier, dans son existence. Et puis aussi, pourquoi pas, de changer vraiment la vie au sens de concevoir un autre monde possible, pour reprendre un slogan qui, cette fois, innerve nos dernières décennies.
Alors Emmanuel, pensez, est-ce que mai 68 a changé nos vies?
Non seulement c'est évident, mais nous attendions presque la vérification statistique de ces grands mythes et donc nous le vérifions dans le sondage que nous publions et c'est vrai que bon, Ludivine Bantini, dont je conseille vraiment la lecture du livre, montre une chose aussi très importante, c'est qu'on a souvent réduit mai 68 à un mouvement culturel, à un mouvement parisien, rive gauche, et son livre, qui est une exploration des archives à travers la France, montre que c'est un mouvement social aussi, et peut-être surtout, hein, et que ça ne se réduit pas au cliché. Et l'un des chiffres du sondage que nous publions est très intéressant, c'est que pour les Français, mai 68 est aussi bien un mouvement culturel qu'un mouvement social. C'est-à-dire que on a beaucoup entendu à gauche, voire à l'extrême gauche, des critiques selon lesquelles, on a oublié la dimension sociale de 68. Je peux vous dire que non seulement les Français n'ont pas oublié la dimension sociale du mouvement, mais qu'en plus, encore une fois, ils en défendent l'héritage.
Et comme vous, Jean-Pierre Le Goff, à sa manière, Ludivine Bantini appelle à se questionner et à questionner l'avant et l'après mai 68, à arrêter de contourner l'événement. Elle rappelle que c'est un surgissement, oui, mais pas venu de nulle part. Elle questionne aussi cette qualification des 30 glorieuses, rappelant qu'en France, au moment où mai 68 arrive, déjà depuis quelque temps, pour beaucoup, la situation s'était dégradée et que c'est aussi un mouvement vaste de contestation sociale qui vient d'en bas et qui n'est pas qu'une petite révolte estudiantine réservée aux Parisiens. Comme on l'a souvent présenté.
Absolument. Oui, je pense que d'ailleurs la question du mouvement social, parce que je pose la question d'ailleurs dans mon livre, il n'y aurait pas eu l'appel du 13 mai des organisations syndicales à la grève générale, avec déjà un mouvement d'occupation, qui a donné un caractère au mai français tout à fait particulier, qu'on pourrait appeler le temps suspendu, qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines manifestations. Vous ne le trouvez pas, par exemple, en Angleterre, parce que ce mouvement, appelons-le la commune étudiante, hein, parce qu'il y a d'autres aspects. Vous prenez une séquence de temps, années 60, vous avez le Japon, l'Allemagne, les États-Unis avec la guerre du Vietnam, ce mouvement d'une montée du peuple adolescent en révolte, si vous voulez, d'un nouveau monde qui est en train, dans des sociétés qui rentrent dans le nouveau monde, vous le trouvez partout. Et donc, il va prendre un aspect lié à l'histoire nationale. Nous, on n'est plus politique, on va ressortir les barricades, on va ressortir... L'Angleterre, ça s'est pas fait comme ça, l'Allemagne, ça s'est pas fait comme ça. Mais c'est un mouvement global. Et on a oublié, effectivement, la Grande Grève. Simplement, il faut dire une chose, c'est que, écoutez, Pompidou des Sous, moi je me rappelle les manifestations, il n'y avait pas que ça, il y avait quand même la CFDT, qui était un élément tout à fait nouveau, et qui d'ailleurs va insister sur un acquis qu'on a oublié, qui va avoir lieu après mai 68, c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, qui est un élément très important, mais au-delà de ça, si vous voulez, il y a quand même un grand fossé, et la rencontre n'a pas vraiment eu lieu, sinon à la marge, avec la classe ouvrière, la CGT veillait au grain. Pour que les ouvriers ne rencontrent pas, si vous voulez, parce qu'ils avaient peur des gauchistes. Bon. Et donc, ça s'est fait un peu à la marge, mais entre le Pompidou des Sous et vivre sans temps mort et jouir sans entrave, je veux dire, il y a quand même un sacré fossé. Et à mon avis, le fossé existant entre une partie, avec les couches populaires, il commence déjà là. Parce que c'est pas du tout, il y a des nouvelles aspirations, mais ces aspirations, elles sont marquées par le peuple adolescent. Et le problème, c'est, je pense personnellement, et là, c'est la grande différence, par exemple, avec Ludivine Montigny, qui a... Ce qui est intéressant, c'est les archives, mais la problématique de fond, je la connais depuis 50 ans. C'est-à-dire que c'est une autre façon de la politique, c'est vraiment l'essence de la politique, et tout est politique. Précisément, pour moi, ça, c'est véritablement l'héritage impossible. Ce tout n'est pas politique, et toute parole qui vient d'en bas, parce qu'elle viendrait d'en bas, n'est pas nécessairement bonne. On peut dire qu'elle est bonne là, mais on va la trouver mauvaise en Allemagne avec le Front National. Elle vient pourtant d'en bas. Alors, faut savoir si la conversation, c'est l'essence du politique avec les postures du corps. Je passe sur le jargon sociologique, enfin, que j'ai du mal à... Le moindre truc a une portée, si vous voulez, politique, subversive. Le commun, je suis pour. C'est un peu comme le vivre ensemble. Maintenant, on a mis le commun. Alors, j'y rajouterai un truc, le bien vivre ensemble. Pour moi, c'est gentil, c'est sympathique, je suis pas contre. Mais je n'y vois absolument pas une alternative au problème que nous avons aujourd'hui.
Conclusion, Jean-Pierre Le Goff, Emmanuel Poncet, alors, pourquoi 50 ans après, mai 68 divise encore autant? Pourquoi ça reste un événement certes historique, mais aussi paradoxal?
Parce que je pense qu'il y a un héritage impossible et qu'il faut essayer de faire la part des choses entre l'héritage impossible et ce qui peut nous interroger. Ce qui peut nous interroger, à mon avis, c'est qu'il y a un questionnement à un moment donné qui est posé en mai, qui n'est pas forcément politique, mais qui est important, dans un moment où la société commence à se moderniser et passe à l'autre monde. Et la question est la suivante, à mon sens, et celle-là reste ouverte aujourd'hui. Voyons, sommes-nous heureux dans ce nouveau monde? On voit bien le monde qu'on quitte, on voit pas le monde dans lequel on entre, et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation dite heureuse et à l'adaptation à tout craint avec la figure du manager et du perpétuel gagnant, je pense que s'il y a quelque chose qui peut encore interroger, c'est ça. Mais je n'en fais pas la grande alternative politique, les ressources, avec l'espoir, ça va pas tarder à revenir, ça fait 50
mais
ans
justement, que
je l'entends,
Jean-Pierre, je trouve que c'est une impasse. Ce que mai 68 a permis, c'est justement de produire cette énergie critique ou cette énergie positive qui est à même de réaliser ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que d'interroger systématiquement, année après année, les catégories politiques, les institutions. Alors évidemment, trop d'excès et ce nihilisme dont vous parliez, mais moi ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, quand on demande aux Français, et en particulier aux plus jeunes et aux provinciaux aussi que nous avons interrogés, mai 68 a produit cette énergie créative, politique, culturelle. Et pour le résumer en un mot, malgré ce que Nicolas Sarkozy ou d'autres ont pu dire, et Daniel Cohn-Bendit le dit dans l'entretien qu'il donne dans le nouveau magazine littéraire, les Français ne sont pas les réacs que l'on décrit. La preuve, ils défendent l'héritage de 68.
On va terminer, comme vous tendiez la perche, Emmanuel Poncet, sur les mots de Daniel Cohn-Bendit en entretien dans les pages du nouveau magazine littéraire avec Raphaël Glucksmann. Ça commence par « Pourquoi tu ne veux plus parler de mai 68 ?» Il répond tout simplement « Parce que j'en ai marre ». Vous n'êtes pas le seul, Jean-Pierre Le Goff, vous voyez, mais on y revient toujours, vous aussi, à travers ce livre. Et il termine par ces mots « 68 interpelle encore, car ce mouvement bizarre, chaotique, insaisissable, est indubitablement du côté de la vie ».
On est pas mieux.
Merci beaucoup Emmanuel Poncet, le nouveau magazine littéraire en kiosque donc depuis hier, et merci à vous Jean-Pierre Le Goff, La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 1950 à mai 68, vient de paraître chez Stock. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Claire Maillot et Clémence Marie pour la programmation, à Chloé Leblon et Henri Leblanc pour la préparation, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. Aujourd'hui à la réalisation, Liscombe avec Emmanuel Morse-Duncan. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous et je vous dis rendez-vous demain.